Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 21 avril 2007, il est midi exactement.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer, maintenant, le supplément week-end avec l'actu BD, BD en ville et télévision, suivi de Ça c'est du sport, les résultats sportifs, en direct des vestiaires et de l'infirmerie. Et ensuite à 15h, le potager, 16h, scène transmission, 17h, Big Bang, 18h, vie d'ordure, 20h, la CTRO expérience, 21h30, stay tuned, vous écoutez FMR, nous sommes en direct et surtout, demain, n'oubliez pas de voter. Bonjour, c'est Xavier avec vous. Du sport vient d'arriver, c'est pour le supplément week-end. Nous avons donc deux des quatre invités qui sont déjà présents. Sylvie et Florent, bonjour.
Bonjour.
Ils sont là pour parler de leur festival qui a lieu le week-end prochain. Le festival Bulle donc, qui est donc le premier festival de bande dessinée qui a lieu à Toulouse, dont la deuxième édition a lieu donc le week-end prochain. Et full disclosure oblige, je dois annoncer donc que la radio en est partenaire. On a d'autres invités qui sont là pour un festival de bande dessinée indépendante qui a lieu en même temps à la médiathèque associative. Il s'agit des éditions Misma. Ils sont perdus en route. C'est les joies du direct. Mais en attendant, on commence de suite avec Alice in Videoland, Cut the Crap. Commence déjà le bazar à l'antenne. Oui, du sport. Non, du sport. Non. Non, pas la soupe de Vénus dans Star Trek. C'est le supplément week-end, comme d'habitude. Un programme qui est destiné à vous faire écouter autre chose que de la radio, ou continuer à écouter la radio, à écouter FMR pendant que vous lisez de la BD. Allez vous faire dédicacer de la BD, week-end prochain. ou le week-end en cours, ou zapper sur la télé, non, ça en général on met pas la radio, c'est beaucoup moins drôle. Nous avons donc deux invités qui sont déjà présents, sachant que donc on a d'autres invités, les éditions Misma qui vont arriver. Donc en attendant, on a Sylvie et Florent du festival Bulle d'Ombre qui a lieu le week-end prochain, à la salle Barcelone. J'espère que vous êtes bien installés.
Ça va, ouais.
La petite boule un peu on est
bien...
dans la gorge.
Non, non, ça va, on est bien installé. Il y a un animateur sympathique, c'est bon.
Oui, oui, c'est peut-être le choc thermique, parce que c'est vrai qu'en cave, alors dehors, il fait beau et tout ça, c'est peut-être pas très agréable, ouais, ça... quand même. Hein.
On a un peu l'impression de se retrouver chez des troglodytes, là, en vie en
souffert. Des troglodytes, oui. En général, c'est les gothiques, mais les gothiques, c'est le mercredi soir sur la FMR. Tout ça, donc, on va en parler bien évidemment après une première page de sortie bande dessinée de ce qui est présent, ce qui est sorti. Donc, vous inquiétez pas, on est là un peu aussi pour s'éclater et pour le faire, je veux dire, de manière tranquille. Malheureusement, la première BD dont je vais parler, ça s'est pas très bien passé. Non, c'est l'autre, justement, c'est Intermezzo. Que dire d'Intermezzo? C'est Tori Miki, qui est un dessinateur japonais qui est très connu, pas seulement en tant que dessinateur. C'est sorti dans un magazine de critique télé, qui est un peu l'équivalent du Télérama. Et c'est édité en français, en France du moins, c'est même pas en français, aux éditions IMHO. Et là, comment dire? Là, on sent qu'il y a un drame qui se joue. Le chroniqueur BD éclairé, instruit, cultivé, qui tient dans ses mains un chef-d'œuvre réel, intelligent et... Alors autant je suis capable de me jeter dans des livres d'expérimentation graphique les plus obtus, autant ma japonophilie aiguë ne se soigne pas à l'écoute continue de groupes comme Shaka Zombie, c'est du hip-hop, Pizzicato 5, c'est de la J-pop reconvertie en drum and bass, ou Danky Groove, c'est de la J-pop reconvertie en hard tech techno remixé post-Benny B. Vous pouvez mettre les casques s'il vous plaît. Autant ma manga mania me vaut de collectionner même des fanzines à tirage confidentiel, alors que je ne sais toujours pas lire. Le japonais, je précise, on ne sait jamais. Autant là, je dois dire, j'ai du mal. C'est peut-être parce que IMHO est capable de publier des auteurs barrés comme Atsushi Kaneko, dessinateur de Bambi, interviewé ici même dans cette émission il y a 15 jours, ou Junko Mizuno, la dessinatrice complètement barrée d'un Cinderella et d'un Hansel & Gretel complètement sous acide. Non, même pas, j'ai lu et adoré. Non, je dois dire, chers auditeurs, que je ne suis pas arrivé à entrer dans le livre des gags en une planche, des dessins en bulles, ni onomatopées, en gaufrier 3x3 cases, sens de lecture japonais, mais là non plus c'est pas un problème. Eh ben non, je n'y arrive pas. Tori Miki est pourtant considéré comme le nouveau Gary Larson, un universitaire de la bande dessinée, un scénariste reconnu, comme par exemple du dessin animé Pat Labor WX3. Non, je dois avouer, Intermezzo a été trop nonsense pour moi. Une partie des gags culturels, des références m'ont totalement échappé. J'ai pas réussi à lire des aventures du personnage principal. Un homme absolument imperturbable devant des événements les plus incongrus, les situations les plus improbables et les critiques les plus mystifiées. Et pour la première fois, cette antenne, je suis au regret d'annoncer, chers auditeurs, que ce livre m'a Buster Keatonisé. Même les scientifiques de l'Institut n'arrivent pas à comprendre l'absence de réaction de mon système nerveux central et vous m'en voyez désolé. Tori Miki, le deuxième tome de Intermezzo, vient de sortir, c'est chez IMHO. Normalement, c'est en 4 tomes, je sais pas, peut-être j'y arriverai un jour. Allez savoir. Il y a du sport qui évidemment me chante pendant que donc il y a nos autres invités qui sont arrivés de Misma Édition. Je reprends mes notes à la volée de Donald et Damien.
Ronald, s'il vous plaît. Bonjour. Ronald.
Oui, excuse-moi. Pourtant, en tant que fan de McDo, je devrais y arriver. Hein. Ouais, culture fast-food et tout ça. Bonjour et bienvenue.
C'est mon vrai prénom. Hein.
Oui, mais il va falloir que je vous débrief en fait entre juste avant que je passe à la chronique du septième ange parce que en fait voilà ils sont arrivés en retard. Et donc il représente Misma Édition, dont on va parler tout à l'heure. Stéphane Miquel au scénario, Nicolas Taquian aussi au scénario, des 5 Kenjo Aoki, 7ème ange, c'est dans la collection Fusion chez Soleil. Oh, imaginez la fin de notre siècle, un futur brillant pour l'humanité, où celle-ci est enfin repartie à la conquête de l'espace, histoire de errer dans le vide pour oublier que la Terre est complètement pillée, que l'Amazonie n'existe plus, que les espèces animales et végétales ont presque toutes disparu, et que pour survivre, l'espèce humaine se replier dans d'immenses mégapoles gouvernées par des gouvernements militaires autoproclamés. Par coup d'État. Et oui, même la démocratie est une espèce en voie de disparition. D'ailleurs, à ce sujet, si demain vous pouvez aller voter, enfin bon. Gabriel Stern est un des agents chargés de faire régner l'ordre. C'est un agent nettoyeur. Un bourreau qui n'utilise plus la guillotine, mais la lunette d'approche et le fusil de longue portée sans que le condamné ne soit au courant de son procès. Oui, c'est plus simple, c'est un peu plus humain quand même que la guillotine, le stress. Sinon, la viande, elle se braque, elle est beaucoup moins bonne. Un sniper gouvernemental chargé de l'exécution des criminels, comme par exemple un enquêteur qui veut dénoncer des fonctionnaires corrompus, un opposant au système politique. Comme ça fait un peu tâche dans ce genre de méthode, bah oui, il y a toujours des rétrogrades qui croient que la peine de mort n'est pas la meilleure solution. Gabriel, l'ange tueur, n'est jamais directement en contact avec le gouvernement. Il a un agent de liaison qui le tient au courant des délinquants éliminés de la société, qui lui fournit son trousseau réglementaire, fusil, balle, silencieux, lunettes, et de banquiers payeurs. Petite carte particulière de Gabriel, ce bourreau a abandonné depuis longtemps les paiements fiduciaires, préférant être payé en blue, une drogue très puissante qui augmente ses perceptions et qui calme provisoirement ses cauchemars. Bizarrement, c'est pas franchement les cadences infernales de son boulot qui l'empêchent de dormir. Hélas pour Gabriel, s'il fait partie de cette justice expéditive, il n'est pas moins susceptible d'être suspect, coupable, exécuté. Évidemment, c'est ce qui va lui arriver. C'est du dessin informatique très coloré en grande planche, ce qui pourrait surprendre quand on sait que le dessinateur est japonais et que le scénario est d'auteur français. Mais finalement, on s'en fiche, car l'album apporte sa sensibilité dans une série de cauchemars, et c'est donc dans le format traditionnel des albums français, c'est-à-dire grand album cartonné, couleur, 96 pages si je ne me trompe. Stéphane Miquel et Nicolas Taquian au scénario, Kenjo Aoki au dessin. 7ème ange, c'est un one-shot paru dans la collection Fusion chez Soleil. Midi 14 minutes et 46 secondes sur l'horloge atomique de Radio FMR. Vous écoutez le supplément week-end et donc nous avons des invités. Donc nous recevons en studio Primo, Ronald, Guillaume et Damien. Pour les éditions Mismar, Representing the Place, le festival en attendant septembre, avec aussi 6MMP, que l'on connaît bien sur FMR, La Toile, Thermostat, La Maison qui pue et Roll Mob. C'est une référence directe à Explosion d'usine, et ben vous le saurez en nous écoutant. Et c'est ce week-end, c'est jusqu'au 21, donc demain, 16h si je me trompe. Il y a un moratoire pour que les gens puissent glisser le papier dans la boîte transparente.
Non, pas vraiment, mais effectivement, on a fait exprès de clôturer à 16h pour permettre à tout le monde d'aller voter.
Voilà. C'est bien, c'est une très bonne initiative. Et d'un autre côté, donc cela se déroule donc jusqu'à demain. Voltigeur à la médiathèque associative et au Bicoque. Donc trois lieux plutôt éclatés dans le centre-ville et qui collaborent et qui ont pas mal de relations avec la bande dessinée. Mais on a aussi donc les organisateurs du festival Bulle d'Ombre, Sylvie et Florent, qui sont présentés rapidement tout à l'heure, dont la deuxième édition aura lieu le week-end prochain, 28 et 29 avril, c'est à la salle Barcelone. À noter que donc samedi 28, c'est la prochaine émission, nous recevons aussi des auteurs des éditions Paquet qui y seront présents. À noter que ce week-end, un festival bande dessinée a lieu, mais alors que les organisateurs connaissent parfaitement nos coordonnées, nous n'avons strictement aucune communication officielle. Et c'est pourtant pas faute d'en avoir parlé les premiers, c'était il y a déjà 2 ans. Devant ce silence assourdissant, peut-être qu'il y a trop de support BD sur Toulouse après tout, je n'en sais rien. Hein. On est riche, hein. Je crois qu'il y a 2 émissions de BD sur Toulouse. Nous ne pouvons nous risquer à propager une rumeur comme fausse nouvelle. Après tout, ils nous ont déjà fait le coup précédemment. Alors respectons les règles du jeu, ce week-end, on vote bordel. Donc pas de polémique. Ronald, Damien et Guillaume, bonjour. Donc, bonjour, vous êtes arrivés en plein milieu.
Un peu essoufflé.
Vous êtes pas parmi l'organisation de ce festival, mais vous représentez donc un label indépendant, Misma, qui est assez présent sur Toulouse, si je ne me trompe. Alors, la première question, c'est justement, qu'est-ce que le principe de Misma ? Est-ce que c'est un label de bande dessinée ou un label artistique ?
Ben Misma, c'est une maison d'édition, tout simplement, maison d'édition de bande dessinée, qui a été créée il y a 3 ans à Toulouse, justement, à la base par Damien et moi, les deux jumeaux à la base du truc, et après ils sont venus se greffer toute la pléiade d'auteurs qu'on connaît, dont Ronald, Grand Péan, Simon, Marion Puech, Anne-Charlotte Gauthier, etc., etc.,
d'accord.
Et qui ont formé par la suite la revue collective de Poututo et tout ce qui est.
C'est vous dire, chers auditeurs, combien les questions sont complètement bateaux, puisque je n'ai même pas eu le temps de consulter les ouvrages ou quoi que ce soit. C'est graphiquement, ça se rapproche de quoi ? Est-ce que vous êtes plus dans l'expérimentation ? Vous êtes plus comme Ego Comics dans le scénaristique, la nouvelle manga ou
C'est difficile à dire. En fait, il y a une unité, enfin il y a une genre d'unité graphique dans les bouquins, si on peut dire, sachant qu'en même temps chacun a vraiment son style. Je sais pas si on se reconnaît vraiment dans une famille, si ce n'est des affinités,
ouais,
avec
des affinités,
certains éditeurs comme l'association ou d'autres, quoi. Dans le sens où on essaie vraiment de faire nos trucs, quoi.
D'accord. L'association, c'est quoi déjà ?
L'association, c'est...
Ah mais non, c'est une entreprise, je me trompe. C'est l'entreprise de menu, celui que tout le monde a quitté. Voilà, on va y arriver. Donc on est plutôt dans l'expérimentation, bien évidemment. Qu'est-ce qui fait que vous êtes réunis avec 6M1P, avec la maison qui pue, qui est une maison qui est à la fois entre Angoulême et Toulouse ?
Alors ça, à la base, c'est parce que justement, comme vous l'avez dit précédemment, on avait entendu parler d'un festival BD sur Toulouse, mais ça restait de l'ordre de la rumeur, c'était les libraires qui nous apprenaient un peu ça, mais de manière vraiment complètement incertaine.
Et même les libraires qui y participent n'étaient pas encore convaincus il y a 2 semaines.
Hein, ouais,
voilà,
c'est vrai,
donc c'est pour ça que c'est pas trop la peine d'en parler.
Et nous, on avait dit, on va essayer de, si ça se fait, de montrer, parce qu'on n'avait pas été contacté, donc du coup, toute cette scène indépendante toulousaine. Mmh. Et donc, on avait décidé de montrer aux gens une autre bande dessinée et de créer le tout premier festival alternatif de bande dessinée.
Un festival qui existait en partie déjà, puisqu'il y avait déjà l'explosion d'usine, qui a été créée en 2001, un peu à la sauvette, juste après le grand feu d'artifice d'AZF au squat culturel. C'est en rapport direct ou...
Alors, c'est pas un rapport direct. Après, le rapport, il se fait rapidement, effectivement. Nous, personnellement, on n'avait pas connu...
dans le micro.
On n'avait pas connu explosion d'usine parce qu'on était... c'était à un moment donné où on faisait nos études d'Amiens sur Paris, moi, sur Angoulême. Et donc, on n'avait pas, connu ça, mais on en avait entendu parler, bien sûr. Ouais. Et donc... Et voilà.
Là, donc vis-à-vis d'Angoulême, il y avait la proximité avec tous ceux qui sont sur place, la maison de l'image, l'école de l'image, pardon, le CNBDI, et il y avait envie de continuer cette émulation.
L'émulation, elle venait pas du tout ni du CNBDI ni de l'école de l'image, très sincèrement. Mm-hmm. C'était plutôt, effectivement, c'est les élèves entre eux après qui soit se regroupent à la fin des études ou quoi, mais sur le moment, il n'y a pas tellement d'émulation directe sur place, quoi.
D'accord. Votre revue, c'est une revue annuelle, si je me trompe.
Pardon. C'est une revue qui sort tous les 2-3 mois.
D'accord.
À peu près, on essaye de se tenir à ce rythme-là.
C'est assez épuisant, je dirais.
C'est assez épuisant, ouais. On arrive à s'y tenir, plus ou moins. Des fois, ouais. Ça prend du retard, ça va sortir.
Dans le micro.
4 mois après. Ouais. Mais on essaye de s'y tenir. Et,
D'accord, ok. Donc c'est un format souple, comics.
Oui, dont la pagination varie entre 48 et 64, sachant que les deux derniers numéros qu'on a sortis sont sortis ensemble dans un même pack, sous le même blister en fait. Mmh. On a groupé, on a fait un numéro double, mais séparé.
D'accord. c'est pas mal comme idée, comme concept.
C'est un concept, ouais.
C'est pas mal du tout. Et la diffusion, on vous trouve surtout dans les librairies spécialisées ou...
Oui, plutôt, ouais.
Ou sur commande sur net.
Ah, on le trouve aussi sur internet, ouais. Sur notre site, on a une boutique en ligne, un chez PayPal et tout. C'est livré dans la semaine, sans problème.
Après, à Toulouse, c'est assez bien distribué parce qu'on s'occupe nous-mêmes de la diffusion. Et pour ce qui est des autres villes de France,
Paris, Rennes, Poitiers,
c'est des auteurs
Strasbourg.
Qui sont sur place qui s'occupent de faire le
de relais. Démarcher. Ouais. Ouais. Mm-hmm. D'accord. Quel est à peu près évidemment c'est un travail bénévole donc c'est quand même beaucoup beaucoup de temps passé là-dessus. Est-ce que quel tirage vous permettez finalement par numéro?
Les tirages sont à 200 exemplaires.
Oui, donc c'est une édition assez limitée.
Ouais, en sachant qu'on a pris ce choix-là de pas tirer à beaucoup d'exemplaires, en sachant qu'on peut les tirer quand on veut. Mmh. C'est-à-dire, ça nous évite des stocks énormes et dès qu'il n'y en a plus, on les retire de suite. Ça prend pas de temps et on a un souci comme ça. On a un souci d'économie.
Mmh. D'accord, ok. Je suppose que vous ne connaissez pas. C'est la première fois que vous voulez rencontrer Bulle d'Ombre.
Oui, exact.
Voilà, qui est donc un festival qui peut se targuer d'avoir été le premier festival de bande dessinée dans Toulouse intramuros, puisqu'il y a un autre festival à Toulouse qui est celui de Colomiers. Et il y a aussi EOS, on va y venir. Alors, Sylvie et Florent, comment vous est venue cette envie de monter un festival?
Alors là, je laisse la parole à Sylvie, étant donné que moi je suis rentré après dans l'association, donc je laisse la parole à la présidente.
Tout simplement, en arrivant sur Toulouse, en découvrant qu'il n'y avait pas de festival sur Toulouse, et je trouvais ça très malheureux, c'est quand même une grande ville, Toulouse. Et donc j'ai décidé de monter un festival, surtout que j'avais participé à plusieurs festivals, dont celui d'Opale BD.
Oui, qui est sur la côte d'Opale, justement.
Qui est sur la côte d'Opale. Donc j'avais participé, aidé à organiser, et j'adorais.
D'accord,
ça.
Dans l'organisation en soi.
Oui, tout à fait. Mmh. Donc ils m'avaient appris et ils m'ont aidé à organiser le festival, ainsi que d'autres festivals, dont EOS, et dont le festival d'Ersuradour, qui m'ont donné des conseils au départ. Mmh.
Donc EOS, la joyeuse bande de Monsieur Pelin et tout ça, qui a lieu le premier week-end d'août. C'est un festival dont on va parler un peu aussi tout à l'heure. Alors juste une question, qu'est-ce qui motive à faire un festival de BD? Combien tu as de bouquins chez toi? Est-ce que c'est une bibliophilie?
Non, c'est plus une passion aussi de rencontrer les gens et de permettre justement à des jeunes de pouvoir rencontrer le monde de la BD qu'ils ne connaissent pas automatiquement et de pouvoir aussi se lancer, rencontrer des professionnels qui n'oseraient pas dans les festivals classiques.
D'accord. C'est aussi une envie de se rapprocher du monde professionnel et d'être en contact avec des éditeurs et des auteurs.
Tout à fait. C'est avant tout une passion. Mmh.
En général, quand on organise un festival qui est relativement modeste, qui c'est qu'on contacte en premier? C'est les éditeurs ou les auteurs directement?
J'ai commencé par les auteurs et de suite après les éditeurs.
D'accord.
Il y a beaucoup de... C'est assez... beaucoup d'éditeurs, c'est quand même facile de les contacter, surtout quand on a déjà le contact avec les auteurs.
C'est le grand paradoxe qu'il y a en France, c'est qu'il y a en moyenne 2-3 festivals de bande dessinée par week-end en France. Et finalement, sur la région Midi-Pyrénées, il y en a une dizaine, très grand maximum. Mais en général, on dit que certains auteurs veulent bien se déplacer s'ils ont un prix. Alors, est-ce qu'on vous l'a fait, celle-là ?
Pas du tout, au contraire, c'est... Ce qu'on aime bien sur notre festival, c'est avant tout l'ambiance, parce qu'il y a une ambiance assez sympathique. Mmh. Et les auteurs se déplacent pour nous soutenir et pour soutenir notre idée. Et on ne demande pas qu'il y ait un prix spécialement sur le festival.
D'accord. Ok. Alors, est-ce que ce sont surtout des auteurs toulousains qui viennent ? Ou est-ce que vous dites on décroche un petit budget et on voit la gentillesse de qui veut bien s'immobiliser pour 3-4 jours?
Alors c'est des auteurs qui viennent un peu de partout, donc il y a des Bordelais, il y a des Parisiens, il y a de la côte d'Aix-en-Provence, tout ça. Il y a 3 Toulousains quand même, parce que sur Toulouse c'était quand même important de promouvoir Toulouse, et notamment une BD qui vient de sortir.
Oh Toulouse, voilà. Et donc il s'agit du collectif sur les chansons de Claude Nougaro qui est sorti il y a environ 2 mois chez Petit à Petit.
Environ. Donc, mais on essaye vraiment de faire venir des gens qui ne sont pas à l'habitude d'être sur Toulouse, qui ne viennent pas souvent sur Toulouse.
Alors parmi les auteurs, évidemment, il y a une très fine dessinatrice qui s'appelle Algezira qui fait Candélabre. Il y a Anton, Mickey chez Glénat, qui est assez étonnant d'ailleurs, le scénario d'un communiste de droite notoire, Jean-David Morvan. Ça, c'était ce qui s'était exprimé sur le blog de Libération, du Monde, pardon. Christophe Bon, Pierre Monichamp, Marco, Paco, Anne-Lise Picard, David Rath, Mathieu Rennes, Alexis Santenac, Nadine Thomas, Wissengel, Sébastien Mourou et Teudon. C'est la liste qu'on a révisée juste avant. J'y note des coloristes. C'est assez rare en général. Les auteurs sont contents qu'il y ait des coloristes qui viennent
avec
eux.
Et c'est vraiment une volonté du festival de faire venir des coloristes. Mmh. On essaie chaque année d'avoir des coloristes. L'année dernière, c'était Elsa Brandt. C'est Nadine Thomas, parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les festivals, qui est souvent un plus pour les gens, pour les coloristes, et même ils aiment bien se faire connaître, et c'est un plus pour les gens qui viennent en dédicace, puisque c'est pas très courant d'avoir des couleurs.
Des belles dédicaces couleurs, ouais, d'accord.
Et ça permet de faire connaître, en notant aussi que sur le festival, il va y avoir une démonstration de couleurs, de palette graphique, donc montrer la couleur. Mmh. Donc c'est vraiment quelque chose du
là,
festival
dessiner à la tablette,
voilà, tout à fait.
Painter, dessiner, Photoshop et tout le reste, quoi.
Tout à fait.
Attention, il y a un gros débat, hein. Il n'y a pas Thomas qui est là, mais on a eu des auteurs qui ont dit non à Painter et d'autres qui disent j'adore Painter. Là-dessus, c'est assez dangereux. Peut-être que le sujet sera abordé. On verra. Justement, puisque vous avez des fanzines qui sont présents, savoir c'est vraiment du fanzina, hein, par contre, de ce côté-là. Mm-hmm. Mogambo et la Déchaînée Team sont plus confidentiels encore que Misma.
Donc c'est 2 Toulousains, et il y a l'entrepôt aussi qui vient mm-hmm. d'Aix-en-Provence. On a 3 fanzines qui viennent.
D'accord, ok. Et le fait justement qu'il y ait un festival de bande dessinée underground qui a lieu ce week-end, est-ce que ça vous donne envie de les contacter pour le 3e?
J'ai essayé plusieurs fois de les contacter et
là ils sont en direct, hein, échangez-vous les cartes de visite.
Donc, l'année dernière, à notre festival, il y avait Ronemont qui était présent, je ne sais pas si ils vous l'ont dit. Non. Donc c'est vraiment pas évident, et c'est vrai qu'on pourrait faire des choses ensemble, ça pourrait être intéressant.
Moi, je trouve que c'est une super idée de faire venir des coloristes, quoi, en fait. C'est une super idée, quoi.
Bah, j'ai vu ça dans un festival une fois et j'ai trouvé que c'était génial. Mm-hmm. J'ai repris l'idée.
Et puis le but, en fait, de notre festival aussi, c'est de faire découvrir un peu la BD à tout le monde, et sous toutes les formes de la BD existante, quoi. Donc le scénario, le dessin et la couleur, en fait. On veut pas juste se cantonner au dessin. On a un peu trop tendance à voir dans les festivals juste les dessinateurs qui sont mis en valeur, etc. Et les coloristes ont un peu trop tendance à servir de faire valoir, en fait, aux dessinateurs. Il y a beaucoup de coloristes et de dessinateurs qui trouvent ça très bien qu'on s'intéresse aux 3 aspects de la BD, quoi.
J'ai un appel de la régie finale qui me fait remarquer 2 choses. C'est qu'on n'a pas les chronos pour avoir exactement les temps de parole. Ça arrive. Mais on va vous laisser continuer à deviser juste après, puisque là, malheureusement, eh ben, c'est l'heure de la publicité. J'en suis bien malheureux, bien fort d'aise. Il est 12h30 sur Radio Éphémère.
Génétiquement programmé le lundi 23 avril à la SDF de Ramonsville, le concert des Suicidal Tendencies aura bien lieu. Que voulez-vous, c'est comme ça. Ils sont nés comme ça. Des mains pour les guitares, des gueules pour gueuler, des pieds pour te les foutre dans la tronche en slamant. Suicidal Tendencies de naissance. C'est donc le 23 avril, SDF de Ramonsville.
Aujourd'hui encore, ils sont 12. Demain, vous n'en garderez que 2.
C'est tout ce que j'adore et tu l'as fait tellement bien et tellement de grâce.
Je te tire un grand chapeau.
Jusqu'où tu vas nous emmener, c'est magnifique.
Mais qu'est-ce que c'était faux.
Tu manquais de souffle.
Rythmiquement, c'était à la rue.
J'ai rien compris à la chanson.
Sans vous, ils ne sont rien. Vous serez les seuls maîtres à bord.
Ça fait 6 mois que les sélections ont commencé. Ils ont fait leur show à la télé, sur scène, en radio, dans les journaux. Il y a eu des mots, des déceptions et de l'enthousiasme. Leurs fans les ont soutenus. Maintenant, vous avez le choix. Vous décidez de l'avenir. Qui va rester pour le duel final? Attention, ce n'est pas une fiction, le vote n'est pas truqué. Vous allez lire qui, pendant 5 années, sera le nouveau tsar. Demain, votez. En plus, c'est gratuit, il n'y a pas de vote par SMS+, alors vous pouvez y aller. Hein. Le scrutin est ouvert de 8h à 20h selon votre inscription sur les listes électorales. Le supplément week-end, donc on revient avec nos invités. Donc nous avons le festival Bulle d'Ombre, Sylvie et Florent, qui aura lieu le week-end prochain. Et ce week-end, donc il y a le festival En Attendant Septembre, qui a lieu entre le Voltigeur, le Bicoq et donc la médiathèque associative.
Il y a Terra Nova aussi, une librairie aussi qui participe à l'événement.
Oui.
Voilà, à côté.
Alors, excuse-moi, tu disais
Terra Nova aussi.
Terra Nova, non, voilà, je connais pas. Donc.
C'est une petite librairie du sud, sud-ouest, qui fait des spécialités
du côté de la Dorade. Elle se trouve.
C'est dans la rue d'Ombre Blanche, hein, en fait. Non,
elle se trouve du côté de la Dorade, dans la rue.
Dans l'État.
Ouais. Voilà, d'accord. Donc, qui est un festival, je vais dire, de prosine et de labels indépendants, qui a lieu ce week-end. Donc, on a pour Missma Édition. Ronald, Damien et Guillaume, vous avez entendu donc les deux derniers. Puisque justement, on parlait de festival, comment vous voyez à peu près le public qui vient vous voir? On va dire justement pour... on va commencer pour vous.
Tu veux dire un festival, un festival, n'importe quel festival.
N'importe quel festival général. Pour une séance de dédicace, qui c'est qui vient?
Je pense qu'il y a des personnes qui nous connaissent déjà, ouais, par internet, ou des gens qui viennent nous voir, qui nous connaissent par internet, et après
il y a des gens qui s'intéressent à la bande, ouais, dessinée, disons indépendante, plus largement, et qui sont curieux, et puis il y a des gens
qui découvrent,
voltigeurs qui découvrent par exemple l'exposition qu'on est en train de faire là-bas et qui voilà s'aperçoivent que la BD c'est pas forcément juste des pages exposées au mur et que ça peut devenir un peu autre chose, quoi.
D'accord, donc là-dessus vous pensez que vous avez une chance que cela s'ouvre de manière un peu plus large?
Ouais, pourquoi pas. Enfin, nous, on fait le. Ouais, on essaie de toute façon de plaire à un maximum de gens, quoi qu'il arrive, quoi, de faire découvrir voilà, des choses un peu singulières ou personnelles, enfin originales si possible, un maximum de gens. On s'oriente pas vers un public particulier ou forcément même spécialisé ou voilà, on n'a même pas l'impression d'être vraiment cloisonné dans une bande dessinée en particulier, sachant que la plupart du temps on sait même pas vraiment où on va, quoi.
Sylvie et Florent, vous avez fait donc l'an dernier, il y a eu une première édition du festival BD. Qui c'est qui était venu à cette occasion-là?
Eh bien, justement, c'est quelque chose qui était assez surprenant, qu'on a énormément surpris, c'est qu'on a eu beaucoup de familles en fait qui sont venues, des gens qui ne connaissaient pas automatiquement de la BD ou qui pensaient que la BD était destinée plutôt aux jeunes, mmh. et qui ont découvert que la BD, il y en avait pour tous les âges, tous les styles et pour tous les goûts. Et c'est qui sont pris au jeu et qui ça a eu pas mal de succès.
Et une découverte de ce côté-là.
Beaucoup de découvertes, oui. Mmh. Parce que ben il y avait pas de festival sur Toulouse, donc c'était l'occasion de voir quelque chose de près, que c'était quelque chose facilement ouvert, où ben les gens pouvaient venir se promener en balade, tout simplement, mmh. et venir voir ce qui se passait.
Et puis je pense que de moins en moins, enfin j'ai l'impression, les gens ont la perception de la bande dessinée comme quelque chose de très spécialisé où il faudrait connaître. Je crois que de plus en plus c'est ouvert justement parce qu'il y a une prolifération d'éditeurs, d'auteurs, que de plus en plus on voit des choses vraiment, le panel s'ouvre quoi. Mmh.
Ronald donc de Misma, là-dessus tu penses, parce que moi c'est plutôt l'impression que j'ai en tant que chroniqueur, c'est que finalement la bande dessinée c'est énormément sectorisé et,
ah ouais
et
c'est triste si c'est encore comme ça, mais je pense que ça c'est en train d'évoluer quoi.
C'est en train d'évoluer,
par exemple ce dont on parlait tout à l'heure, la séparation entre dessinateur, scénariste, coloriste, je crois que ça explose justement parce qu'on a des moyens comme Painter, Photoshop ou même simplement les couleurs directes, ne serait-ce que les moyens d'impression. Ça évolue super vite, on a l'impression numérique qui permet de faire justement des petits tirages, d'avoir de la couleur qui est encore un peu chère, mais même ne serait-ce que des niveaux de gris, c'est super accessible, le rendu technique est super bon, et après il y a internet en complément, il y a les blogs, enfin tout ça est mixé, les gens qui font de la BD sur les blogs racontent plein d'autres choses en même temps, donc c'est super ouvert, ça peut déboucher sur de l'animation, ou plein de trucs quoi.
On va y venir justement sur le site web, puisque donc vous avez un site, alors je m'excuse mais j'ai eu des soucis pour surfer dessus, mais c'est une présence permanente et de plus en plus il y a des blogs bande dessinée. On a une interview qui va bientôt arriver avec Luna Rousse et j'ai oublié son nom, Boulet, que l'on a fait à Angoulême sur justement les dessinateurs de blogs. Est-ce que là-dessus vous pensez qu'il y a une possibilité d'évolution? Ça va être un peu la mort du papier et peut-être la mort justement de ce genre de prestations publiques.
Si les blogs c'est pas juste un book en ligne, ça peut devenir intéressant. Si c'est pas juste un dessin anecdotique, si on peut vraiment avoir des projets sous cette forme-là, le côté évolutif dans le temps, un truc à suivre, ça peut être super intéressant quoi.
Il faut que ça reste dans le cadre d'Internet. Je pense que de toute façon la bande dessinée est faite pour être un livre. Il y a l'objet qui est très important, le toucher des pages, etc. Donc c'est vraiment deux trucs différents. Après, effectivement, il y a beaucoup de blogs qui sont édités.
Oui, comme l'un des blogs les plus célèbres de ce côté-là, c'est Mega Tokyo, qui a littéralement cartonné et qui s'est ouvert. Et maintenant, il est revenu plus au secteur de la dédicace, justement, de la prestation, puisqu'il est américain. Hein, donc, c'est relativement différent. Est-ce que c'est pas un peu difficile et un peu frustrant quand on a beaucoup de gens qui viennent sur son blog? Mais sur son site, pour un festival qui a lieu à Toulouse ou pour une maison d'édition où les auteurs sont principalement toulousains, quand on vous dit « Ah, c'est dommage, moi j'habite dans le Nord, je serais bienvenu », ou est-ce que c'est stimulant ?
Ben, quelque part, c'est stimulant parce qu'on se dit que ça peut plaire à des gens qui sont pas forcément de la région, quoi. Alors que le festival que nous, on fait, c'est quand même à thématique de Toulouse, quoi. À la base, c'était quelque chose, vraiment, on revendiquait notre appartenance à la ville et le fait que ce soit le premier festival de Toulouse, quoi. Mais après, il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui vont venir de plus loin. On a des gens qui vont venir de Paris, on a des gens qui vont venir de Bordeaux, qui vont suivre plus ou moins les auteurs, qui connaissent.
Donc il y a la cohorte de fans die hard quoi.
Ouais, peut-être pas la cohorte non plus quoi. Je veux dire, ça va pas être l'émeute, mais on voit quand même qu'il y a des gens qui sont attirés par les auteurs qu'on a invités aussi et qui sont prêts à faire du chemin pour venir quoi. Donc ça veut dire que quelque part on fait peut-être quelque chose qui est de qualité et qui se retrouve dans l'ambiance du festival quoi.
D'accord. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de se mettre un week-end de 4 jours pour permettre aux gens de loin de pouvoir venir aussi et de découvrir la ville de Toulouse. C'est une façon de promouvoir la ville.
Et quand... Pas mal.
Pardon.
Oui.
Ouais, non, mais nous, on n'a pas que des auteurs toulousains d'abord dans Misma. Et d'autre part, c'est bien de faire enrager les gens, justement, de profiter du support internet pour dire voilà ce qui s'est passé, que c'est un peu la rage pour les gens qui n'étaient pas là. Et en même temps, sachant que l'expo, on peut aussi, mais c'est bien ça, ils se rangent le frein, c'est cool. Mais en même temps, ils peuvent aussi, on peut aussi, nous, déplacer l'expo ou la refaire autrement, par exemple, dans une autre librairie qui serait intéressée et qui ferait ce genre d'événement, quoi. D'accord. Nous, ça nous intéresse pas simplement de le déplacer comme un truc tout fait, mais peut-être de réinventer à chaque fois, quoi. Ça devient presque un nouveau support, quoi.
On va rappeler rapidement, donc, il y a ce week-end, le festival En Attendant Septembre qui a lieu, donc, je vais finir par retenir les noms et avoir la bonne au Voltigeur.
Il y a au Voltigeur, à Terra Nova, au Big Coq et à la médiathèque associative.
Voilà. Sachant qu'à la médiathèque associative, tout à l'heure à 19h, il y a un apéro film d'animation.
Oui, une super soirée avec des films d'animation qui vont être vraiment super. Dommage, quoi. Et le tout est gratos.
Dommage. Donc, avec la collaboration des labels Système MP, La Toile, Thermostat, La Maison qui pue et Roll Mops. D'un autre côté, donc il y a pour l'autre partie Bulle d'ombre, dont c'est la deuxième édition qui a lieu le week-end prochain. C'est à la salle Barcelone, c'est boulevard de Barcelone, si je me souviens
boulevard
bien.
Boulevard de Barcelone, du côté de la cité administrative et du canal de Brienne.
Voilà, bus 24 et 16, vous l'indiquez de votre côté.
Devant l'arrêt Arsenal.
Voilà, avec une douzaine de dessinateurs qui seront présents et ma foi des signatures plutôt intéressantes. Tous les détails sont sur les sites et vous allez sur le site internet radio www.radio-fmr.net. Vous cherchez, il y a marqué sur le côté, il y a marqué supplément week-end, festival BD, vous cliquez dessus. Vous avez tous les renseignements sur les événements BD qui ont lieu donc ce week-end et le week-end prochain. Pas la peine de chercher ailleurs, il y a tout ce qu'il faut avec les liens. Donc n'hésitez pas et puis voilà, vous écoutez le supplément week-end midi 40. Du sport va quitter le lounge bar derrière destiné aux guests et on va essayer de se resserrer un peu. On n'a que 4 micros et 6 personnes. Ça fait beaucoup. Yes. Coasting in 10 times the speed of light. Our captain is none of them just coming to bed. And who am I? Yeah. Little something called the jazz. Well, easy rider, fluid less, ninja punk tempo, scuffed up, roughed up, minimal maniacy, back out of them basics, words to groove to work, sit back, we observe, we write books like study, Smith who, messy body, put down the caffeine for taekwondo, slow-mo maneuver. New brand and groove, smash up a TV, yeah, look up brain food, whoa, it's I, original, subversive spy, took that freaky money and I told no lie, your honor, most truly it was all for the cause, for weeks on end, we sitting round this mixing board with Miss Need for liquor, rhythm for my junkie, bust up in that place now, who named Spunky, Joss, Must. Hey, yeah, yeah. Pack living, switch me to a monster loony. With my tunable choo-choo chain, new time tuning. Scruffing on the kitchen and no fish to fry. Baby, please do kind, sir. Pick out those ice ain't off to shock. Well, protein blast. Got them type of style, put your nigga in that one plus the cost. So who's send it? Deep blue nutrition, feed that structure. Game pole position from we hope to we wish to we hope. Reality bites and our run snatch the soap. Waiting a split second, it was there to see them. Technicolor options, there before we. We're finished with cheese, sundown, sweet way free. Up terrorists with this activity, switching up procedure, downside up. How the hell is it we looking at this half full cup? Just, them dudes don't know me, and I don't know them dudes. We could waste our time being boasty and rude. Resigned to the fact, leave the world to the world. Seek our own thing and that's been put stone to John Crow. Gang so hard that we booze up big toe. Gang so hard that we booze up big. Yeah, Gavin. Yeah. We pop that mime, sketch that rhyme. Lean in pizza, cookie design. We sing it over landline to good speeds of mind. Yeah, we spread the news, the views, the whole ten. To hone up in the place, I was saved by the golden pen. Close your eyes and see the sunrise. Dip in five. So socialize, is imagine it. Yeah, hey, grub the teeth, grabbing it, original. Wholesome, holy grub. Eyes like us do, no I stop. The people over there, they my cursing cuss. They won't come on up and kick mentor boss. Can't stand pain, can't stand shame. I be one for cover. Who can I call my brother? Who can I call my sis? Most people they take the piss, and I can't stand the risk. So it's fit fair. Hate, same old blasting cycle. Send me the food that's ITO. Wacky, who's Michael? How could you be so spiteful? Eating on my trifle, make me feel stifle, make me feel awe. Oh.
She needed me, bleeding me dry. Could not see sight, I was miles too high. But those dudes don't know me, and I don't know them dudes. I could waste my time being boasty and rude. Resigned to the fact, leave the world to the world. Seek our own fling in a 10-foot stone on John Cole. Gang so hard that I bruise my big. Gang so hard that I bruise my big. Gang so hard that I bruise my big.
Woods Manova. En featuring sur un album assez vénérable de Mr. Scruff, Keep It On Real, Just. Bonjour du sport, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va ? Avec la trahison pour commencer, direct ?
Ah non.
Ah si 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 si, allez. Si,
ah non.
Si,
bon
si,
alors, que... j'aurais juste, dans ce cas-là, quelque chose à passer. Avant.
Vas-y.
Ouais. Surtout, n'écoutez pas du sport. Il dit que des méchancetés.
Voilà, je remercie Daniel Herzog, Yves Lecoq et Sandrine Alexis qui vont bien bosser demain.
Et donc, c'est pour vous parler de ce qui va se passer ce week-end. Et d'après ce que j'ai compris, en fait, l'événement est déjà passé, en fait, à la remise des prix, en fait, qui a eu lieu hier soir de ce festival.
Oui, forcément, ils ont des auteurs importants, faut un prix.
Ouais, avec des auteurs importants, parce qu'ensuite la deuxième partie, en fait, c'est aujourd'hui et demain. C'est plus réservé aux gens qui ont déjà une bonne collecte de BD et qui se disent ouais putain, en plus si j'ai la dédicace dessus, le bouquin il prend de la valeur, c'est trop cool mon gars.
Et ça bon, va pas plus... vous arriver de suite hein.
Non mais bon c'est plus pour les gens qui bon ont déjà un certain âge, ont déjà une super collecte et tout, et qui parce que bon, vu les gens qui viennent et les grosses têtes d'affiche hein, c'est plutôt des types moi j'ai connu quand j'étais jeune, Kaza. Alors bon,
Kaza, il vient pas, il est du coin.
Ouais, Herman, entre autres, ouais. Mais ce qu'il y a,
Herman,
c'est que...
ouh, elle doit être contente, Christine.
Ouais, non, mais elle le sait pas. Elle le sait pas.
la série
Kaza, dont qui a obtenu le Grand Prix de la ville, mais il y a également dans la catégorie aventure, c'est Labiano qui s'est fait remettre le prix pour Black Op.
Ouais.
Pour la catégorie fantastique. C'est Johan pour les géants pétrifiés et pour l'humour c'est My President de Clark. Alors moi ça me dit rien, tu vas chroniquer
déjà
ce truc là.
Oui, c'est un truc complètement barge sorti chez Flic Glacial, c'est un immense délire autour d'un George Bush complètement neuf.
Et il y a également Dovillier d'Avio pour ceux qui restent.
Alors moi j'aurais juste une question, c'est on sait qui est le jury?
Ah non, pas du tout.
Donc
non,
ça doit être un jury de paille, hein, voilà.
Oui, non, mais de toute façon, quoi. Voilà, bon, ça se passe ce week-end, hein, voilà. C'est sur la à la Dorade, hein, pareil. Hein, c'est cool, quoi. Sinon, du côté des sorties, le nouveau cahier du foot est sorti avec le titre à fond les manettes et tout. On le savait
pas
déjà.
Pas de politique, pas de politique du sport.
Si. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même quelques pages qui sont, ouais, c'est normal, ça tombe en avril, donc quelques pages qui sont consacrées à l'élection présidentielle, avec un article qui s'appelle les présidentiables et leur double dans le football. Alors, ils imaginent ce que pourrait être le double, le double de Bayrou, par exemple, c'est Pires. Alors je vous sors également Marie-George Buffet, c'est Serge le disait. Bon, ça s'adresse quand même à des gens qui connaissent un peu le foot, hein, pour ces deux références. Ségolène Royal, alors là, c'est un peu dur, c'est Djibril Cissé.
Si, tout à fait.
On a Sarkozy, Jean-Michel Aulas, là, ça se tient, hein. Philippe de Villiers, c'est Frédéric Terrier, c'est-à-dire le président de la Ligue. Dominique Voynet, Dominique Rocheteau.
Oh,
et
les salauds.
Besancenot, alors là, c'est un peu dur pour lui, je trouve, c'est Franck Ribéry. Bah, vous voyez, genre, quoi. Avec les rubriques habituelles. Et donc la rubrique qui commence à prendre vachement de place et qui est relativement intéressante, la chronique tactique de Michel Bramy, là ça te prend pratiquement toute la page, tu vois, quoi. Et c'est d'après les tactiques utilisées par les équipes de la Ligue des Champions, à savoir l'AS Roma, Milan AC, Valence et le Manchester United, les circuits préférentiels. Enfin, c'est vraiment de la tactique de football, tu vois, quoi. Comme ça, t'as de quoi alimenter tes conversations quand t'es au bistrot, tranquille.
Avec des capsules
et,
de bière.
T'as l'air vachement plus intelligent. Et les rubriques habituelles avec, bien sûr, le Magic Dream Team. Enfin, tout ça, c'est dans le cahier du foot. C'est pas la peine que je vous raconte. C'est comme tous les week-ends. Alors, je voulais faire une petite recette de cuisine, mais enfin, bon, on va laisser tomber hein, cette semaine. Hein, je sais pas si t'es d'accord.
Pourquoi ?
Ouais, bah je sais pas. Alors je te fais juste un cocktail, quoi. T'es d'accord ?
Ah ouais. Ouais.
Allez, un petit cocktail.
Donc c'est extrait d'un excellent bouquin qui est sorti chez Librio, qui s'appelle La cuisine des séries.
Putain, il est où ?
Et on peut cuisiner comme dans une série télé. Ah, alors laquelle il va prendre ?
C'est des vraies recettes, hein, de toute façon, quoi. Y a pas de problème. Je t'ai dit un cocktail, donc c'est le. Attends, il est où celui-là, quoi ? Il est où? Bon, bah, vas-y, meuble un peu, là, que je trouve. Voilà, je l'ai trouvé. En fait, c'est le cocktail qui est vachement simple et que tout le monde doit connaître, en principe, puisqu'il est extrait de la série The Persuaders, qui est, en titre français...
Amicalement vôtre.
Bien sûr.
Attends, Lord Brett Sinclair. Attends, mais il faut prévenir quand c'est comme ça, mon cher ami.
Oui, mais bon, tu me prends au déboté, alors bon, on le fait pareil, de toute façon. Quoi. Alors là, bien sûr, et on a tous plus ou moins en tête l'épisode pilote, c'est-à-dire la rencontre entre les deux, hein, entre Roger Moore et Tony Curtis, qui déboule sur une histoire en fait de faut-il mettre deux olives ou une olive dans le créole crime, et il y a le gros baston et tout, enfin bon, c'est excellent, c'est magnifique, c'est génial. Eh ben, je vous propose la recette justement de ce créole crime façon Wilde ou Sinclair, hein, selon que vous mettiez une ou deux olives. Alors il faut 10 minutes de préparation quand même, hein. Alors 6 centilitres de rhum blanc, 2 centilitres de vermouth frais et non glacé.
Quelle marque?
Alors,
de vermouth?
Bon,
qu'elles ont toutes disparu dans les années 70.
Ouais, non, mais enfin bon, tu sais, maintenant il y a une marque qui commence par un M et qui se termine par un I, qui remplace justement, quoi, qui est un petit peu le générique, on va dire, du vermouth.
Ouais, bah il faut mettre, je sais pas si tu le sais, mais il faut mettre légèrement de gingembre.
Non, pas là, parce que tu rajoutes encore 2 centilitres de grenadine, 2 centilitres de jus de citron et
une ou deux
olives, donc, pour obtenir ce magnifique Creole Cream, tiré donc de la série Amicalement Vôtre, The Persuaders, avec la musique de John Barry, magnifique. Allez, on va plomber un petit peu l'ambiance avec une nécro. Il est mort le 19, hein, donc c'était quand le 19, c'est hier, vraiment hier, tu vois. Jean-Pierre Cassel nous a quitté dead. C'était un gros fumeur et puis il a chopé le cancer et puis bon. C'est quand même le papa de Rejeton hyper fameux, entre autres, hein. Il est né en 32, de son vrai nom, Jean-Paul Crochon. Alors c'est sûr qu'il a mieux valu pour lui qu'il modifie un petit peu son nom de famille pour faire carrière. Il a eu des Rejetons célèbres, le plus célèbre c'est, comment il s'appelle, Vincent. Mais il y a également Mathias, alias Rocking Swat d'Assassin. Ah ouais, non, quand même, quoi, hein. Big dédicace, quoi, à Rocking Swat. Et Mélanie, une fille. Donc Jean-Pierre Cassel, il a commencé, il a fait le cours Florent, il a fait des études d'art dramatique et tout, comme d'habitude, comme tout bon acteur français qui se respecte, venant de cette de cette époque là il commence sa carrière cinématographique dans les années 50 avec son premier film qui s'appelle Pigalle, Saint-Germain-des-Prés, de Jean Berthomieux. Mais après, il a plus ou moins enchaîné des rôles assez sympathiques, du moins à partir du début des années 60, bien qu'il ait fait une apparition non créditée d'ailleurs dans le film, un film de son idole, hein, parce qu'il faut dire que Jean-Pierre Cassel, eh bien, s'il est un acteur au demeurant, est également un danseur, hein, il a également appris la danse, hein, donc très très important.
C'est un gros fan de Fred Astaire.
Et non, surtout de Jane Kelly.
Mais c'est une fille.
Non, Jane Kelly, non.
Pardon, je confonds avec l'autre.
Sa sexualité est peut-être pas la même, mais c'est un garçon, Jane Kelly, hein, d'accord. Et donc il tourne dans un film de son idole, Jane Kelly, en 57, qui s'appelle La Route Joyeuse, mais il n'est pas crédité du tout et tout. Et à partir des années 60, il va commencer à développer des castings relativement intéressants, on va dire, hein, le caporal épinglé de Renoir en 62, Paris brûle-t-il, enfin avec son casting international. De Clément en 65, L'Armée des Ombres de Melville en 69, en 70, allez, vas-y, 3 films d'un seul coup, dont L'Ours et la Poupée, avec Brigitte Bardot, et d'ailleurs, faut en profiter un petit peu, La Rupture de Chabrol, et Le Bateau sur l'herbe de Gérard Braque. Il tourne également avec Buñuel en 72, La Charme discret de la bourgeoisie, Les Trois Mousquetaires l'année suivante, le film, c'est de Richard Lester, un des meilleurs Trois Mousquetaires d'ailleurs, hein, à ce jour, quoi, avec la version de George Sidney de 48, celui-là il est vraiment très très bien aussi. Et Le Crime de l'Orient Express en 74. Dans les années 80, il met plus ou moins sa carrière cinématographique, on va dire, Entre parenthèses, ils préfèrent les films ciblés, les films d'auteur, que ce soit au cinéma ou à la télé, que ce soit à la France ou à l'étranger. On le revoit un petit peu dans Le Prêt-à-Porter d'Altman, dans Les Rivières Pourpres. Bon, ouais, c'est normal, la famille et tout, quoi, tu vois, avec le fiston tranquille. Bref, bonne carrière, donc, de toute façon, pour Jean-Pierre Cassel, qui a quand même été un des sexes symboles des années 60 et des années 70, ça, il faut le savoir également. Voilà, donc, des profondus et big up à toi, Jean-Pierre. On passe directement à un sujet qui fâche encore, et alors là, j'ai vraiment trop les boules, tu vois, comme, putain, déjà, j'ai vraiment trop les boules, parce que on se nique Véronica Mars, parce que la diffusion, on en a déjà parlé, mais on en reparle, c'est normal. La diffusion sur M6, eh bien, c'est une diffusion quotidienne, donc tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, à 18h55. Merci les gars, c'est sympa à cette heure-ci. C'est un peu dur de regarder quand même.
Ouais, surtout, il faut le repasser sur W9 à 3h
du matin.
Ouais,
ouais, le débit est un petit peu impressionnant quand même pour apprécier à sa juste valeur cette excellente série Véronica Mars, dont on nous a diffusé, bah, pareil, hein, la saison 2, tu l'as pas vu passer tranquille. Et la saison 3 démarre sur M6 lundi prochain, saison 3 qui pourrait être la dernière, parce que bon, du côté ricain, la chaîne n'est pas chaude pour reconduire l'aventure et tout. Et donc, il va falloir faire comme à la fin de la saison 1. Il va falloir que les fans se mobilisent à fond les manettes, qu'il y ait des grosses têtes, genre Stephen King, genre, ouais, je suis un fan de la série, pour que, bah, la chaîne se dise, ouais, peut-être qu'on va quand même faire peut-être une saison 4 quand même. Ça peut peut-être marcher quand même. On va voir ce que ça donne. En tout cas, saison 3 de Véronica Mars. Excellente série qui est malheureusement massacrée par M6 du fait de sa diffusion un petit peu trop tôt. Ça mériterait, je sais pas, un prime time, tu vois, qu'il le diffuse à 20h à la limite tous les soirs, là ça aurait un petit peu plus de gueule, parce que bon, au moins il prendrait un petit peu de risque, mais là bon, c'est quand même un petit peu n'importe quoi.
Préfère le multi diff.
Ensuite, parlons des petites choses qui ne fâchent pas avec Smallville ce soir.
Sur M6. Un avion de cargo, c'est un A380.
Avec deux épisodes comme d'habitude, inédit, la saison 6, dont le premier s'appelle Sous Terre, et le deuxième Au Trouble, mais avec la participation de Tori Spelling, la fille d'Aaron, de le regretter, Aaron Spelling, donc à ne pas louper, hein, et puis pour regarder un petit peu toutes les années qu'elle a pris dans la gueule depuis les années Beverly Hills, tu vas voir, ça va la changer quand même, hein, c'est refaite, tout est refaite de haut en bas pratiquement. Encore. C'est dommage. Il y a du bon ce soir sur TV Braise, et c'est le Columbo de la semaine quand même. Et là, c'est un grand Columbo, hein. D'ailleurs, on peut remercier quand même la chaîne de excusez-moi, c'est nerveux, de nous diffuser.
Comment ça, de la Bretagne?
Ah non, non, mais non, vraiment, là, ce soir, c'est la semaine dernière, c'est pareil. Hein, il y avait celui avec Vincent Price, je crois, avec Martin Sheen et toute la bande là, qui était excellent. Et là, celui-là, c'est pareil. Question d'honneur, ça se passe au Nouveau-Mexique et tout, et dans le monde de la corrida, eh bien, il y a un employé qui se fait dégommer par un taureau qui avait déjà dégommé un autre. Et puis là, Columbo, il va enquêter.
En 403 là-bas.
Ouais, ça s'appelle Question d'honneur, ça date de 76 et c'est filmé par Ted Post, le mec qui a fait pendre Léo Ricourt avec Clint Eastwood, tu sais, le film,
oui.
Au début il se fait pendre et puis après il va se venger et tout, avec Ted Post, tu vois, qui réalise donc cet épisode de Columbo avec Ricardo Montalban, la vedette espagnole, hispano, absolue dans les années 60 et les années 70. Ricardo Montalban qui est connu plus pour son rôle, bien sûr, dans... L'île fantastique avec le nain là, Hervé Vilches.
Ah, c'était lui le.
Voilà, c'est lui, Ricardo Montalban, et qui, j'ai regardé un petit peu tout ce qu'il avait fait. En fait, c'était une vedette qui a tourné un nombre incroyable de films au Mexique. Hein. Il est né à Mexico City dans les années 30. Il a fait un nombre incroyable de films jusque dans les années 70. Dans les années 70, il commence à faire, dans les années 60, il fait quelques incursions dans le cinéma américain, mais pour jouer des rôles d'indiens, tu vois. Tu vois le genre, quoi. Dans les films de western. Et dans les années 70, il commence quand même un petit peu à faire carrière, de l'autre côté, du Rio Grande. Du côté américain. Et donc, on le retrouve, dans, ce Columbo. On le retrouve un peu plus tard, donc, dans cette série où il a ce rôle récurrent de Monsieur Rourke dans L'île Fantastique. Et on le retrouve également aussi cinéma dans Star Trek 2, la colère de Khan, c'est lui Khan, Khan Noaning Singh, C'est Ricardo Montalban, donc et il également plus récemment on le voit dans le rôle d'un grand-père dans Spy Kids 2 et Spy Kids 3. Eh ouais, Ricardo Montalban.
Dans ce film, bien,
dans ce film, il y a également dans ce téléfilm Columbo, il y a également Pedro Armendáriz Jr. Hein, donc ça se passe au Nouveau-Mexique, c'est normal. C'est Columbo ce soir. Question d'honneur sur TV. Bryce. Sinon, on a également une rediff, mais qui tombe à propos. Ou alors selon les résultats de demain, ça tombera un petit peu à l'eau. Ça c'est l'état de grâce, tu sais, cette mini-série qui a été diffusée sur France 2 le mercredi soir et qui raconte l'histoire d'une femme qui devient présidente de la République française. Et
un joli accident industriel celui-là.
Voilà, ouais, une mini-série donc en 6 parties qui est rediffusée à partir de demain soir sur Canal Jimmy, 20h45. Les deux premières parties donc demain soir, interprétées dans le rôle principal par Anne Consigny. Sinon, j'essaie de le faire dans l'ordre de la semaine là, parce que bon, j'ai fait un truc un petit peu n'importe comment. Sinon, lundi, on a pratiquement rien. Si on a FBI porté disparu, bien sûr, la saison 5, l'épisode inédit, s'il vous plaît. Avec qui s'appelle Protection, donc lundi soir sur France 2 à partir de 20h50, avec Reed Diamond qu'on connaît, on l'a vu dans Homicide, rôle récurrent, hein, et également on l'avait vu là dans également invité guest star dans un CSI Las Vegas il n'y a pas si longtemps que ça, hein, et c'est suivi par deux épisodes de la saison 3 lundi, donc FBI porté disparu, le procès, et un autre épisode qui s'appelle Repentir, mais là qui est un petit peu heavy parce qu'il est quand même en signalétique moins 12, et tu remontes un petit peu la musique que je puisse boire un coup là. T'as oublié le bip là.
Oh merde, 13h30. Oh, tu le veux.
La tradition. On termine quand même en beauté avec
Termine, c'est le CD là.
Non, pas tout de suite. Tu le mettras à la fin, pratiquement, comme ça, on verra. Avec Life on Mars, la série du moment, quand même.
Mais diffusée, ça, on a compris que t'étais fan. Hein.
Diffusée sur 13e rue. Alors demain soir à 22h35, c'est la rediff intégrale des 8 épisodes de la saison 1. Donc pour ceux qui ont encore tout loupé, il y a encore un moyen de d'enregistrer sur le disque dur ou sur la cassette, ce que vous voulez. Pour remater ces 8 excellents épisodes de cette excellente série qui s'appelle Life on Mars, hein, et là à partir de mardi prochain donc les deux premiers épisodes de la saison 2, et là je me suis un petit peu attaché pas à vous détailler ce qui va se passer. Alors il faut remarquer quand même que 13e rue fait assez fort parce que la saison 2 est diffusée pratiquement il y a 2 mois grosso modo, hein, sur BBC One quoi, pour la première fois, donc, et là 2 mois plus tard seulement, bien, une chaîne française est déjà en train de diffuser ces épisodes. Là on voit qu'ils commencent à faire des efforts et on voit qu'ils peuvent le faire s'ils veulent, tu vois. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin d'attendre un an, 2 ans, 3 ans, que ce soit complètement suranné pour diffuser une série. Tu vois, surtout que maintenant avec le net, il y a souvent possibilité de mater les épisodes directs et tout à la source, sans se faire chier à attendre qu'ils te le passent sur une télé française. Alors bon, qu'ils arrêtent un petit peu nous prendre pour des cons. Je parle des chaînes françaises, hein, bien entendu. Donc, j'en reviens à Life on Mars. Donc, mardi, donc, début de cette saison 2, avec 2 épisodes meurtriers en puissance. C'est le premier, également un épisode à propos du paradoxe temporel que vit Sam Tyler, puisque là il va être confronté à un type qui l'a arrêté dans la période contemporaine en 2006, et il se retrouve nez à nez avec ce type là un petit peu plus jeune, donc et là il a la possibilité une autre voie, de telle manière à ce qu'il ne devienne pas tueur en série, ne se fasse pas arrêter par lui-même un peu plus tard en 2006. Enfin, tu vois un petit peu le genre.
Parce qu'en fait le principe, c'est un enquêteur de terrain qui s'est fait renverser et qui se retrouve 30 ans plus tôt, 40 ans plus tôt,
c'est pas un enquêteur de terrain, il est quand même commissaire principal, hein. Attention, hein, il est quand même patron d'un service, hein, en 2006, quoi. Et là, quand il bascule en 1973, il se retrouve commissaire adjoint, c'est-à-dire en dessous du patron, hein, joué par l'excellent Philippe Glenister, magnifique, hein, dans son rôle de patron un peu ripou, vieille école et tout, hein, très très bon. Et donc, c'est surtout musicalement que cette chaîne, que cette série est aussi vachement intéressante, parce que ça nous replonge dans les vieux tubes qu'on pouvait écouter à l'époque dans les années 70, surtout en Grande-Bretagne, surtout en Angleterre, vu que la série est entièrement basée géographiquement à Manchester. Et là, dans ce meurtrier en puissance, on va pouvoir écouter Atomic Rooster, Roxy Music, Three Degrees, Dusty Springfield avec le fameux Spooky hein, que tout le monde connaît, et David Bowie qui fait Starman. Et l'épisode suivant, donc diffusé mardi prochain dans la série Life on Mars qui s'appelle La Chasse aux Ripoux, eh bien dont la diffusion était bien le 20 février dernier hein, sur la BBC One. Il y aura Mott the Hoople, il y aura Mungo Jerry qui nous fait In the Summertime, Uriah Heep, deux morceaux, les Hollies et Elton John, mon petit gars, tout ça dans Life on Mars, donc mardi prochain sur 13e rue. Et je termine avec les Sopranos. Et c'est d'accord. Là que tu peux lancer le morceau, tu vois, vas-y. Et putain, il l'a même pas encore mis dans le... Là, je suis vert, quoi. Putain, ça fait 20 minutes que je baratine.
Mais non, mais ça fait... Mais il faudrait prévenir une minute à l'avance, c'est pour ça. Allez, zou. C'est la première track, c'est ça?
Les Sopranos, donc, dont l'excellente sixième saison est diffusée depuis 2 semaines sur Canal Jimmy le jeudi soir à partir de 20h45. Je sais pas ce qu'il me faut. Ah, ben voilà! Avec un petit retour dans les années 60. Et pour cause, vu que dans l'un des derniers épisodes diffusés, celui diffusé jeudi dernier, Tony, il se fait proposer un contrat hein, par Johnny Sack. Johnny Sack, il est au trou, mais bon, ils doivent éliminer un mec qui justement essaye de reprendre contrôle sur la mafia de New York. Donc ça lui plaît pas, Johnny Sack qui est au trou. Donc il demande à Tony, ouais, tu peux pas le buter ce con. Et ce con s'appelle Rusty. Et si vous regardez bien la série et tout, vous remarquerez que le personnage est vachement petit hein, par rapport aux autres et tout. Bon, Gandolfini, on sait que c'est un énorme mec, il doit faire 1m90, 1m95. C'est une montagne, mais le mec Rusty, qui joue de Rusty, est très très petit, on le voit d'ailleurs à 2-3 occasions. Et c'est le mec qui va se faire buter. Et Tony, donc, il décide de faire venir, de pas s'en occuper, mais de faire venir des mecs d'Italie, quoi, de Naples, exactement, tu vois, pour faire buter Rusty. Et Rusty est interprété par Frankie Valli. Écoute le chanteur, là. C'est lui, Frankie Valli. Frankie Valli, qui est donc leader dans les années 60 et même dans les années 50 des Four Seasons, dont le tube est vachement connu, hein. Sherry, c'est le plus connu, de toute façon. Déjà dans les années 50, Frankie Valli et son groupe vocal opéraient sous le nom de Four Lovers. Et après, ça donnait les Four Seasons. Et quand ça a été hyper connu, Frankie Valli and the Four Seasons, bien entendu, avant de nouer une carrière. Voilà, c'est tout. Donc, Frankie Valli, profitez-en parce qu'il en a plus pour longtemps, il va se faire dégommer dans les épisodes à venir des Sopranos, à savoir jeudi prochain, 3 épisodes hein, des Sopranos, avec le premier... Quartier VIP, on a également moins 10, on a ensuite Pour l'amour des pancakes, moins 10, et on a Tournée Manège, qui est moins 12, avec également beaucoup de musique hein, dans les Sopranos, des morceaux comme ça, des extraits, alors au fur et à mesure des épisodes de jeudi prochain, on pourra écouter de Little John encore, avec le morceau Daniel, il y a Vivaldi également au programme, Ike and Tina Turner, Felix the House Cat, Soul Wax, Mac 10, Mary J. Blige, et également Free, avec le morceau Alright Now, il y a également Buddy Miles, Johnny Saunders, qui nous fera un excellent Pipeline, hein, c'est sa version de Pipeline, mais c'est toujours excellent, et Johnny and the Hurricanes, ceux qui écoutent l'émission Ça c'est du sport et la rubrique Rock'n'Roll savent de qui c'est, qui sont Johnny and the Hurricanes. Voilà, donc je rappelle, les Sopranos, c'est jeudi prochain à partir de 20h45, 3 épisodes carrément de la saison 6. Quel bonheur mon gars, quel bonheur.
On va terminer avec on va d'abord remercier donc Misma Edition, Ronald, Damien et Guillaume qui nous ont fait la gentillesse de venir pour présenter leur production et qui sont
merci à vous.
Et
merci
qui sont donc venus pour En attendant septembre qui a lieu au Bicoque, à la Cinémathèque, à la Médiathèque associative et à la Galerie d'Expo Le Voltigeur, c'est ce week-end. Donc avec plusieurs autres labels, puisque il y a entre autres 6M1P,
La Maison qui pue, Roll Mops,
La Toile et Thermostat.
Voilà, donc on y a tout le monde. L'accès est libre, si je me trompe.
L'accès est entièrement libre.
Ouais. Voilà. Gratuit. Et tout à l'heure, à 19h, il y a...
À la médiathèque. Ouais. Et tout au long de la journée, aujourd'hui et demain, vous pouvez venir rencontrer les auteurs sur les différents lieux de chaque...
Ce donc, soir à la médiathèque, pardon.
Oui, vas-y.
Non, mais juste pour préciser que ce soir à la médiathèque, donc il y a une production de films, d'animation, de... Voilà.
D'accord, ok.
Isma et d'autres, les requins marteaux, la ménagerie, je crois.
Ouais,
quelques autres. Voilà.
À 19h30, donc.
Voilà. Et c'est jusqu'à demain, 16h, faudra pas oublier de voter. Et ensuite, le week-end prochain, eh ben, donc, il y aura la deuxième édition du festival de bande dessinée Bulle d'Ombre. On remercie Sylvie et Florent. Peut-être vous pouvez présenter un peu les auteurs qui y sont présents.
Donc, Al Jazeera et Nadine Thomas, qui est sa coloriste. Sébastien Amourou et Tedon pour le collectif de Nougaro, donc sur Toulouse. Anton, Christophe Bon pour Sémaphore. Monique Chan pour Pierre Monique Chan pour Crossfire. Marco pour Agence Barbare. Alice Picard qui nous fait l'affiche pour Wena. Mathieu Rens pour Lola Bogota. Alexis de Santonac pour une nouvelle BD dans de la série des Striges avec les Hydres d'Arès. Et Vessengel, un autre Toulousain, pour l'héritier des étoiles avec Carrère.
Et puis les fanzines qu'il faudrait pas oublier de citer.
Les fanzines,
voilà,
les trois fanzines, donc la Delicien Team, la Compagnie des Fous et l'Entrepôt.
Et pour plus d'informations, donc sur le site internet de la radio, www.radio-fmr.net, vous cherchez, vous guettez, supplément week-end, on parle de Festival BD, vous cliquez dessus, vous aurez notre tirailleuse et donc les liens vers les sites de Bulle d'Ombre, de En Attendant Septembre et donc des éditions Misma. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine, merci pour tout, merci de nous avoir écoutés, profitez-en, il fait beau, hein, alors n'oubliez pas d'aller... D'aller voter, bien sûr. De suite, c'est du sport sur Radio FMR. Ça, c'est du sport à suivi à 15h du potager, 16h scène transmission, 17h Big Bang, 18h vie d'ordure, 20h la CTRO expérience, 21h temps de Stay Tuned. C'était le supplément week-end de Radio FMR. Vous pouvez bien évidemment réécouter cette émission et, si vous l'avez pris en cours de route, et les précédentes émissions, vous allez sur le site internet de la radio, www.radio-fmr.net. Si vous cherchez dans Google, Yahoo, Live, ou tout ce que vous voulez, vous cherchez supplément week-end, podcast, ou FMR, ou MP3, et vous allez tomber forcément sur l'émission, et donc vous en saurez beaucoup plus, vous aurez tous les éléments. Voilà, moi je vous laisse, ciao, bye bye, rendez-vous la semaine prochaine, et portez-vous bien. De suite, c'est du sport.